Ils entrent vos rêves. Ils sont sur votre liste de choses à faire depuis des mois, mais vous continuez simplement à les ajouter ou les reporter d'une liste à l'autre. Vous avez lu quelque chose à leur sujet et maintenant vous êtes confus. Pire encore, vous êtes effrayé. Mais bon, vous savez que vous devez les faire un jour, en fait même chaque année. Oui, je parle bien de vos impôts. Bonjour, je m'appelle Carl Philippe et je vous souhaite la bienvenue au premier épisode de Impologie, le nouveau balado de l'Agence du revenu du Canada. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'une zone neutre où nous allons en apprendre davantage sur les impôts. Dans les différents épisodes de ce balado, nous vous donnerons des conseils et des astuces pour vous aider à faire vos impôts. Nous fournirons aussi des renseignements dont vous ne pouvez pas vous passer et nous discuterons avec des experts de l'agence qui sauront vous aider. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de tout ce qui entoure la déclaration de revenus, y compris ce dont vous avez besoin pour la remplir, et, encore plus excitant, les prestations ou les crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Alors, prenez une grande respiration, laissez vos peurs face à vos impôts derrière et restez des nôtres afin que nous puissions en discuter et vous aider à les faire. Un employé de notre centre de contact est avec nous aujourd'hui pour vous conseiller sur les services en ligne, vous indiquer les feuillets fiscaux dont vous aurez besoin, vous aider à comprendre les crédits d'impôt et bien d'autres choses encore. Alors, accueillons notre invité, Martin. Alors, Martin, merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Et d'abord, là, si tu peux nous parler un peu de ton expérience avec l'Agence du revenu, tu as des années, je pense, à répondre aux questions des contribuables et aussi à les aider dans leur déclaration d'impôts.
Oui, effectivement, ça fait 22 ans que je travaille à l'Agence revenu du Canada dans les centres de contact. Donc, j'ai répondu à beaucoup de questions au courant de ma carrière. J'ai répondu à des contribuables et j'ai répondu aussi à des collègues par rapport à des questions d'impôts. J'ai aussi donné beaucoup de formations à l'interne au niveau de l'impôt sur plusieurs variétés de sujets concernant l'impôt.
Et puis dans ce rôle-là, j'imagine que tu as souvent parlé à des milliers de Canadiens au sujet de leur déclaration au fil des années, mais tu as aussi eu à prodiguer des conseils à des jeunes et à des nouveaux déclarants pour qu'ils puissent se préparer là, afin de produire leur première déclaration de revenus.
Oui, effectivement, parce qu'on pourrait considérer que les nouveaux déclarants, bien, étant donné que c'est la première fois qu'ils font leur déclaration d'impôt, donc ce sont des néophytes, donc ils ont besoin de beaucoup d'informations, ils ont besoin qu'on leur donne l'information juste pour que lorsqu'ils produisent leur déclaration d'impôt, mais est-ce qu'ils s'attendent à ce que le résultat souhaité, puis qu'il n'y ait pas d'autres complications. Une déclaration d'impôt, ça paraît très compliqué, mais dans le fond, ça peut être simple. Ça dépend tout le temps de la manière qu'on le prend. Il faut juste pas essayer de sauter aux conclusions, puis faut y aller étape par étape, dans le fond.
J'allais dire, il faut bien suivre les étapes.
Effectivement, faut bien suivre, faut bien lire, parce que l'information, toute l'information, techniquement, est disponible pour que quelqu'un puisse faire sa déclaration d'impôt de façon facile. Autant la déclaration d'impôt contient des renseignements importants, le site de l'agence, les feuillets de renseignement, les guides d'information, tout ça aide à la production de la déclaration d'impôt de la façon la plus facile et efficace possible, donc sans erreur.
Et je tiens à dire, là, l'agence a vraiment plusieurs ressources disponibles en ligne pour aider ceux qui font une première déclaration par étape, justement, et les accompagner dans le processus afin de savoir quoi avoir sous la main et quoi ne pas oublier, ce qui est très important quand on se lance. Et si on revient un peu à la base, donc, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la déclaration de revenus avant de commencer sa première déclaration, mais aussi pourquoi faire une déclaration d'impôt?
Bien, en fait, c'est ça. C'est le but de la déclaration d'impôt, c'est pour faire le calcul réel d'impôt à payer au gouvernement. Lorsqu'on travaille, on peut avoir de l'impôt qui a été déduit à la source, mais ça ne veut pas dire que c'est le montant réel d'impôt qu'on doit payer. En produisant notre déclaration d'impôt, en la complétant, à ce moment-là, on va arriver au résultat exact de ce qui doit être réellement payé par chacun des contribuables. Donc, quand on a un travail, on se fait enlever de l'impôt, le calcul va se faire sur la déclaration d'impôt. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont pas à produire de déclaration d'impôt parce que l'impôt a été retenu à la source, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs situations que les gens doivent produire une déclaration d'impôt, comme par exemple les deux principaux, s'il y a un solde à payer ou s'ils veulent obtenir un remboursement. Donc, si quelqu'un a payé trop d'impôts à la source, ben le seul moyen d'obtenir le remboursement, c'est de faire la déclaration d'impôt. J'ai parlé des deux principales situations où un contrat doit produire une déclaration d'impôt, mais il y a des situations aussi où les gens aurait intérêt à produire une déclaration d'impôt, même s'il n'y a pas de solde à la fin de la déclaration d'impôt. Comme par exemple, quelqu'un qui voudrait obtenir le crédit de la TPS, ben, il doit produire une déclaration d'impôt pour que le calcul soit fait à ce niveau-là. Un étudiant, par exemple, qui a des frais de scolarité, ben, pour que les frais soient enregistrés, ben, une déclaration d'impôt doit être produite. pour que l'information soit dans leur dossier et puisse être utilisée là, lorsque requis à ce moment-là.
Et ça, même si l'étudiant ou le contribuable n'a pas de revenus. Donc, c'est très important d'avoir soumis une déclaration à jour.
Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il y a deux types. Il y a le type de « je dois faire une déclaration d'impôt et j'aurai intérêt ». Donc, les étudiants auraient intérêt souvent à produire une déclaration d'impôt. Entre autres, par exemple, s'ils ont seulement un petit revenu, ben le petit revenu gagné va faire augmenter le maximum déductible au titre de REER, même s'ils n'achètent pas, le montant va s'accumuler. Donc, quelqu'un aurait intérêt à produire leur déclaration d'impôt pour nous laisser savoir c'est quoi le revenu gagné au fin du REER pour qu'on puisse faire le calcul.
C'est effectivement important de savoir qu'il y a des montants et des déductions qui peuvent être rétroactifs. Donc, il faut avoir nos déclarations des années précédentes pour parfois avoir des montants qui nous reviennent dans l'année en cours. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir les informations à jour.
Effectivement, le tout doit être enregistré dans nos systèmes. Pour ce faire, ben, il faut faire la déclaration d'impôt pour que l'information soit à jour.
Donc, il y a plusieurs crédits de déduction là, qui peuvent venir réduire le montant ou encore impacter le montant qu'on a impayé. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner de crédits remboursables ou encore non remboursables qui vont apparaître dans la déclaration d'impôt?
Oui, je peux faire ça. Ben, je vais commencer par les déductions qui viennent en fait réduire le revenu qui a été déclaré. C'est sûr que le résultat qu'on va obtenir lorsqu'on a déduit certains montants va venir affecter le revenu net qui sert justement au calcul de crédit TPS, entre autres, ou les prestations pour enfants et familles. Donc, le fait d'obtenir des déductions va venir réduire le montant éventuellement qu'on va avoir à payer d'impôts, mais va aussi avoir un impact sur les différents crédits qui sont calculés, que j'ai mentionnés précédemment. Et je dirais au niveau des déductions, c'est sûr qu'on en a quand même des populaires, entre autres la déduction REER. Donc, lorsqu'on fait l'achat de REER, on peut venir déduire le montant de notre déclaration d'impôt. On a d'autres aussi d'autres déductions qui existent, qui sont autant populaires, comme par exemple, on peut avoir les frais de garde d'enfants. Donc, les gens qui mettent leur enfant en garderie, ils peuvent avoir des déductions par rapport à ça. Et c'est sûr que lorsqu'on commence à travailler, ben ça se peut qu'il y ait un syndicat. Donc, il peut avoir aussi des cotisations annuelles syndicales qui rentrent dans les déductions qui apparaissent sur le feuillet d'impôt. Donc, ça, c'est au niveau des déductions qui viennent réduire le revenu. Et comme vous l'avez mentionné, c'est sûr qu'il y a d'autres termes, comme par exemple les crédits d'impôt non remboursables. Il y a une méconnaissance au niveau des crédits d'impôt non remboursables parce que les gens ne comprennent pas la notion de non remboursable. Donc, il y a une liste de crédits d'impôt qui existe, qui va venir faire qu'on va payer moins d'impôts, mais ils sont non remboursables dans le sens que si j'obtiens un montant négatif à la fin de mon calcul, je ne peux pas mettre plus que zéro. Donc, je vais mettre zéro. Donc, c'est dans cette notion-là que c'est les crédits d'impôt non remboursables. Puis pour comprendre c'est quoi un crédit d'impôt non remboursable, ben en fait, il y a le montant personnel de base qui est le premier crédit d'impôt non remboursable qui existe, qui est sur la déclaration d'impôt. Mais il y en a tellement d'autres crédits d'impôt non remboursables. Il peut avoir le montant en raison de l'âge lorsqu'on est âgé. Donc, c'est sûr que ça s'applique pas pour le nouveau déclarant, mais il peut avoir les crédits pour les personnes qui sont à notre charge. Il y a plusieurs crédits qui existent pour les gens qui sont à notre charge. Il y a le montant canadien pour emploi. Donc, lorsqu'on travaille à certaines conditions, il y a des crédits qu'on peut demander. Donc, à titre de nouveau déclarant, ben il y a le montant canadien pour emploi qui existe. Donc, il y a une variété de crédits qui existent, entre autres, un autre, les intérêts payés sur les prêts étudiants.
Mm-hmm.
Donc, c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable. Comme je l'ai mentionné, ça ne fait que réduire le montant. C'est sûr qu'on ne va pas obtenir un remboursement d'impôt à cause de nos crédits d'impôt non remboursables, mais ça vient diminuer l'impôt et le reste du calcul va se faire au niveau des autres crédits, parce que là, j'ai parlé des crédits d'impôt non remboursables, mais il y a aussi des crédits d'impôt qui sont remboursables, qui sont dans l'une des dernières étapes de la déclaration d'impôt, qui vont faire en sorte qu'eux, ceux-là, ils sont remboursables parce que si j'ai payé trop d'impôts, je vais obtenir un remboursement d'impôt et peut-être certains crédits qui vont en faire partie.
Donc, ça peut venir faire la différence à la fin d'une déclaration quand on rend vraiment compte toutes les options possibles à intégrer.
Oui, effectivement. Donc, lorsqu'on remplit une déclaration d'impôt, ben c'est important de mettre les revenus, de mettre les déductions auxquelles on a droit, de remplir les crédits d'impôt non remboursables et les crédits d'impôt remboursables. Donc, en soi, c'est important de bien compléter la déclaration d'impôt pour profiter du maximum des crédits auxquels on a le droit.
Génial. Écoute, on parle beaucoup aussi des services en ligne qui sont disponibles dans la balado à travers les nombreux sujets. Est-ce que tu peux nous parler plus de mon dossier, donc vraiment le service en ligne de l'agence? Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment et pourquoi s'inscrire surtout?
Je vais commencer à dire pourquoi s'inscrire. Parce que le site contient beaucoup de renseignements. Donc, pour éviter que les contrôleurs nous appellent, bien, ils peuvent consulter les informations qui sont disponibles via mon dossier. Donc, je dirais que c'est la principale source de renseignements, mon dossier, pour les avis de cotisation qui sont disponibles là. Ils sont même disponibles avant même qu'ils soient postés, parce que tout se fait en direct. Une fois que c'est disponible, ça va apparaître. Une fois que le payeur va avoir émis le feuillet, on va le voir. Donc, il y a plusieurs feuillets qu'on est capable de voir dans mon dossier. Donc, lorsque c'est le temps de produire sa déclaration d'impôt, bien, l'information est déjà disponible dans le système Mon Dossier. Et Mon Dossier aussi permet la mise à jour des renseignements personnels. Donc, le changement d'adresse, le changement de numéro de téléphone, ça, disons que c'est une source énorme d'appels au niveau de l'agence. On peut pallier à ça en étant inscrit à Mon Dossier. On peut le faire directement dans le système pour éviter tout retard dans les paiements, oui.
Je me rappelle mes années d'étudiant. Il y a eu plusieurs changements d'adresse de mon côté. J'aurais bien aimé avoir accès à un service aussi efficace pour les mettre à jour. Et ça permet aussi de s'assurer donc qu'on a non seulement nos adresses, mais nos informations bancaires à jour. Donc, si l'agence nous offre, par exemple, un remboursement ou certains paiements, donc on peut s'assurer que tout sera déposé en temps réel plutôt que de partir à la recherche du fameux chèque perdu.
Effectivement. Et justement, par rapport à Service Mon Dossier, bien, le site de l'agence, au niveau de la page du Service Mon Dossier, on a un tableau avec tout ce qui est possible d'effectuer ou de visionner. Donc, on n'a pas de questions à se poser. Bon, est-ce que je peux voir le courrier? Est-ce que je peux demander une pièce de versement? L'information est indiquée si c'est disponible via Mon Dossier, parce que Mon Dossier évolue énormément. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent au fur et à mesure selon les besoins des contribuables. Avant de parler de Mon Dossier, la première chose, c'est qu'il faut que les gens s'inscrivent. Donc, c'est nécessaire de s'inscrire, comme je vous dis, pour profiter de tous ces bienfaits-là. Et une des façons la plus facile de s'inscrire, c'est en utilisant un partenaire de connexion. Donc, si on est déjà client dans certaines institutions financières ou à certains endroits, on peut utiliser ces partenaires de connexion-là pour avoir le même identifiant. Donc, ça complique moins les choses au niveau de la création de mon compte dans mon dossier, parce qu'on va se servir de l'autre identifiant pour accéder au service
Mon Dossier. Un mot de passe de moins retenir, c'est merveilleux.
Effectivement, oui.
Et là, on parlait évidemment de ce qu'on doit faire quand on soumet une première déclaration. Donc, on a les fameux feuillets d'impôts. Quels sont les feuillets? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et surtout, sont sous la responsabilité de qui? Donc, est-ce qu'on doit les attendre de l'employeur? Est-ce qu'on doit aller les chercher? Comment ça fonctionne pour obtenir des informations?
Bien, en fait, c'est à partir du moment où on travaille. Là, on va parler exclusivement pour l'instant là, des revenus d'emploi. Donc, c'est sûr que l'employeur est tenu de remettre à une certaine date, qui est normalement fin février, les feuillets à leurs employés. Auparavant, les feuillets étaient donnés de façon papier, mais maintenant, avec les nouvelles technologies, donc il y a beaucoup d'employeurs qui offrent les feuillets de façon virtuelle, donc en format électronique. Donc, ça serait important que tous se renseignent auprès de l'employeur pour voir de quelle façon ils vont pouvoir obtenir leurs feuillets, parce que la première étape pour pouvoir faire une déclaration d'impôt, c'est d'obtenir ces feuillets. C'est sûr qu'on peut faire certains calculs, on peut produire sa déclaration d'impôt malgré le manque de feuillets, mais je dirais pour les nouveaux déclarants, c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est d'utiliser les renseignements qui sont sur les feuillets, parce qu'on indique la façon de le faire ou mettre les montants. Donc, le premier feuillet, quand on travaille normalement, c'est un feuillet T4. Donc, il va contenir là pas mal tous les renseignements nécessaires pour pouvoir produire. Et le feuillet T4, bien, comme j'ai mentionné, il y a le format électronique au niveau de l'employeur, mais une fois que c'est soumis, on peut l'avoir aussi dans mon dossier.
Et si, là, par exemple, on a eu plusieurs emplois dans l'année, dont petit emploi d'été, on pense au temps des fêtes, et puis ensuite, là, un employeur nous a oublié la fin de l'année, donc c'est lui qu'on doit contacter pour obtenir les renseignements et non pas l'agence. J'imagine que c'est une grande source de questionnement que vous avez aussi.
Ben, en fait, c'est ça. Nous, c'est sûr qu'on peut être le dernier recours, mais la première étape, lorsque on a fait affaire avec une institution, que ce soit un employeur, avec un autre payeur comme un institution financière, pour obtenir des feuillets, il faut toujours vérifier avec cette personne-là, parce qu'elle est tenue de remettre les feuillets à la personne concernée. Donc, il faudrait vérifier avec eux pour voir pour quelles raisons ça n'a pas encore été émis, ou si ça a été émis, comment pouvoir en récupérer. Mais encore là, il faut faire attention parce qu'il y a des dates limites pour pouvoir émettre des feuillets. Donc, un employeur qui n'a pas encore émis un feuillet en janvier, c'est tout à fait normal.
Et puis, on parlait d'emplois multiples. J'imagine que ça peut compliquer la situation fiscale de certaines personnes quand on se retrouve avec plusieurs revenus, des revenus à la source qui sont peut-être un peu plus complexes puisqu'elles ne tenaient pas nécessairement compte des courtes périodes d'emploi. Alors, comment on fait pour réconcilier tout ça au moment de faire les impôts?
Enfin, une des problématiques, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils devaient déclarer seulement un feuillet. Lorsqu'on a plusieurs employeurs, on doit ramasser tous les feuillets ensemble et additionner les montants pour pouvoir les mettre sur les déclarations d'impôts. Ou ça peut accrocher des fois lorsqu'on commence un nouvel emploi. Il y a un formulaire qui est rempli, qui est un formulaire TD1, puis aussi avoir un formulaire TD1 provincial. Donc, le fait d'avoir plusieurs employeurs, bien, si j'ai rempli un formulaire TD1 et je l'ai rempli complètement et remis à chacun de mes employeurs, parce qu'un formulaire TD1, dans le fond, c'est une déclaration de crédit d'impôt personnel pour aviser l'employeur que je m'attends à titre de contribuable à obtenir certains crédits d'impôt non remboursables, qui fait que je devrais payer moins d'impôts. C'est sûr que tout le monde a droit au montant personnel de base. Et après, il peut avoir d'autres crédits d'impôt non remboursables. Donc, le fait d'avoir plusieurs employeurs, si j'ai mentionné à tous mes payeurs que j'ai l'intention d'obtenir, outre mon montant personnel de base, d'autres crédits d'impôt non remboursables, bien là, à ce moment-là, le payeur, lui, parce qu'on s'attend à ce que vous payiez moins d'impôts, bien, il va prélever moins d'impôts.
Donc, on évite les mauvaises surprises.
Parce que vous allez avoir des crédits. Fait que pour éviter des mauvaises surprises, c'est sûr que lorsqu'on a plusieurs employeurs, il faut regarder la déclaration de crédit d'impôt personnel. Il faut la lire comme il faut. Il y a une indication qui dit que si on a plusieurs payeurs, bon, on n'a pas à remplir toutes les lignes pour chacun des payeurs. Parce qu'à ce moment-là, comme je l'ai mentionné, le fait d'avoir moins d'impôts prélevés sur chacun des emplois, mais lorsqu'on additionne tous les revenus, peut-être que finalement, l'impôt qui va avoir été déduit va être insuffisant. Donc, on pourrait se retrouver à la fin de l'année avec une petite surprise, avoir un solde à payer parce que on va avoir eu plusieurs employeurs, mais on va avoir dit à chacun des employeurs qu'on veut tous les crédits disponibles. Puis, en fait, on peut obtenir le crédit qu'une seule fois sur la déclaration d'impôt, là.
Et pour éviter les mauvaises surprises de fin d'année, on ne le répétera jamais assez, il est toujours préférable de mettre un peu d'argent de côté pour être prêt quand on combine une fois qu'on fait sa déclaration, donc pour voir qu'est-ce qui pourrait bien être dû.
Enfin. Effectivement, oui.
Je pense aussi au montant pour les frais de scolarité. J'imagine que des crédits qu'on peut avoir, il y a des façons de les intégrer à la déclaration aussi.
Donc, les établissements d'enseignement, ils vont émettre un feuillet au niveau des frais de scolarité qui vont avoir été payés à l'établissement. Ils vont remettre ça aux étudiants. Donc, c'est important. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a des situations où ce qu'on devrait produire une déclaration d'impôt, bien, les frais de scolarité, la façon qu'on sache qu'il y a eu des frais de scolarité, bien, c'est en produisant la déclaration d'impôt. Le formulaire T2202, entre autres, qui est pour les frais de scolarité, va indiquer le montant de frais de scolarité. Donc, en complétant la déclaration d'impôt et l'annexe 11 pour l'étudiant, l'information va se mettre à jour à ce moment-là dans le dossier du contribuable.
Parfait. Et puis là, on le disait, on a des ressources en ligne, on a la page web Préparez-vous, on a des tutoriels, des modules en ligne qui s'appellent Comment comprendre vos impôts. Mais dans le doute, on ne le dira jamais assez, appelez-nous. Mais comment faire pour nous rejoindre et quels sont les meilleurs conseils pour savoir quand et comment nous appeler?
Enfin, les meilleurs conseils que je pourrais dire aux contribuables qui veulent communiquer avec nous, c'est d'aller voir notre site web. Le site web sur la page Contactez-nous contient le temps d'attente. Ça, c'est quand même assez récent, là. Ça fait seulement quelques années que l'information a été mise à jour. Donc, on a le temps d'attente selon l'affluence qu'on a, puis c'est quand même mis à jour là, assez souvent. Ça peut nous aider. C'est sûr que nous appeler les lundis ou mardis en début de semaine, c'est toujours un petit peu plus complexe parce que la fin de semaine est passée, donc les gens veulent nous rejoindre. Et il y a aussi, il y a différentes périodes de l'année où ce que ça peut être un petit peu plus achalandé pour nous rejoindre, entre autres quand il y a les paiements de prestations qui s'en viennent ou juste avant la fin de la période de production d'impôts. Donc, ça peut être des gros moments où ce que les gens tentent de nous rejoindre. Mais au départ, c'est sûr que, là, j'ai mentionné le temps d'attente, mais c'est important d'être préparé quand on nous appelle. S'il faut aller dans votre dossier, par exemple, pour obtenir des renseignements confidentiels, ben à ce moment-là, il y a des questions qu'il faut vous poser. Donc, il faut avoir certains documents entre les mains. Il faut être prêt à fournir ces renseignements-là. une question d'ordre général, on n'a pas besoin de ça, mais s'il faut aller vraiment dans votre dossier parce que vous avez besoin d'obtenir des renseignements précis, ben à ce moment-là, non, il faut être prêt à ce moment-là à donner notre nom complet, notre date de naissance, notre adresse qui est au dossier et certains d'autres renseignements qui viennent de l'impôt, par exemple.
Donc, on le rappelle, simplement vérifier parfois le temps d'attente en ligne, faire attention à certaines journées. Et si je ne me trompe pas non plus, qu'un certain volume d'appels est atteint. Il y a un service de rappel donc automatisé qui prend préséance et les gens peuvent donc simplement attendre que l'agence les rejoigne là, dans l'ordre des appels reçus. Donc, il faut rappeler aux gens, là, vous ne passerez pas la journée au téléphone, on est là pour vous répondre et on va vraiment s'assurer de le faire dans des délais qui sont raisonnables.
Effectivement.
Et là, écoutez, il y a aussi un service donc de clavardage en ligne, je pense, qui est nouveau, avec un service qui peut répondre à certaines questions sans qu'on ait à appeler l'agence.
Effectivement, ça a été introduit récemment. Donc, c'est un nouveau service, là, le clavardage en ligne. Donc, c'est pas avec un robot, c'est avec un humain qu'on clavarde, on pose des questions générales. Donc,
il ne requiert pas d'aller dans le dossier du contribuable, bien sûr, mais vraiment sur le type et la façon de produire.
C'est ça.
Et là, je pense aussi, on en parlait tantôt aux nouveaux arrivants qui parfois, c'est peut-être plus difficile en français et en anglais, font une première déclaration, doivent se retrouver dans beaucoup de nouveautés à la fois. Donc, est-ce qu'on peut offrir des services peut-être adaptés à leur réalité dans certaines situations?
Oui, effectivement, je mentionnerais qu'il y a deux grosses réalités qui peuvent être observées, justement au niveau linguistique. Donc, on a parlé un petit peu plus tôt, le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts peut être une source pour eux autres pour obtenir des renseignements et obtenir de l'aide. Parce que le programme de communautaire des bénévoles, il y a certains critères pour faire partie de ce programme-là, pour pouvoir y participer. Mais il y a aussi un volet au niveau des nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de groupes communautaires qui vont aider les gens de certaines communautés, entre autres les nouveaux arrivants.
Je veux dire, c'est un programme là, qui est vraiment à échelle locale aussi, où il est fait en partenariat avec des organismes qui sont sur le terrain, dans les localités où ces gens ont besoin d'aide. Donc, on est vraiment là dans une situation très humaine.
Effectivement, c'est très adapté à certaines situations par rapport à certains groupes de population, entre autres les nouveaux arrivants ou même les nouveaux déclarants. Et l'autre chose qui existe, on peut leur parler dans leur langue maternelle. C'est un service qu'on peut offrir. C'est sûr que c'est pas aussi simple que ça. On l'offre normalement en rappel, mais ça peut être fait pour les gens qui ne parlent pas français.
Donc, l'agence a vraiment des ressources adaptées qui vont pouvoir être mises à profit là, dans le cas d'un appel précis.
Oui, effectivement, lorsqu'il y a des exceptions ou s'il y a des problématiques, on peut effectivement opter pour ces options-là, donc d'offrir un rappel dans leur langue de leur choix.
Excellent. Et puis, on ne dira jamais assez, on a des ressources en ligne, il y a des services, mais dans le doute, appelez-nous, on est là pour vous aider, on peut vous guider et on peut parfois aussi vous faire penser à certaines prestations ou à d'autres aspects de votre déclaration auxquels vous n'avez pas pensé. Donc, c'est très pratique de poser des questions. Alors, Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour éclairer les premiers déclarants sur tout ce qu'on doit savoir sur la déclaration d'impôt. Et puis, dans le doute, on nous appelle. Et encore une fois, merci pour tous tes trucs.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Voilà qui termine notre tout premier épisode de Impologie. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'espère que vous aussi. En tout cas, c'est définitivement bon signe que vous soyez toujours là. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les sujets que nous avons abordés, vous pouvez aller à canada.ca/impôt ou encore nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram au @agencerevcan. Encore une fois, je suis votre animateur Carl-Philippe et je vous invite à ne pas manquer notre prochain épisode où nous discuterons des nombreux acronymes, dont les CELI et les REER, ainsi que la différence entre les deux. Alors, merci d'avoir écouté notre émission. Et je vous rappelle que faire vos impôts, ça peut être payant.